Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, de quoi on va parler?
Il n'y a que toi qui sais. C'est pas parce que t'as pas imprimé le truc.
Alors, ce soir, on va commencer par des brèves, comme à nos habitudes ces derniers temps. Ensuite, on va parler de...
Ces derniers 10 ans.
Non, ça fait quelques temps qu'on commence par des brèves. Bref. Ensuite, on va parler de l'actualité des grèves en France. On va parler d'Idriss Déby président. On va parler des étudiants et étudiantes africains et africaines d'Ukraine. Oublier des politiques d'accueil européennes. Ensuite, on aura un reportage de notre reportrice internationale à la frontière bosno-croate où le harcèlement policier sur les réfugiés et sur les réfugiés. C'était féminisé, mais on n'entend pas le E. Et les soutiens. Et ensuite, on terminera ce Canu Info par une interview de Bahman, réfugié politique iranien, qui vient nous parler de la révolution en Iran.
Du mercredi.
Et on commence par les brèves. J'ai pas le fond musical.
Allez, c'est moi. Dans un contexte où le gouvernement prévoit de réduire encore de 7000 le nombre de places d'hébergement d'urgence, venant ainsi clôturer toutes les places qui avaient été ouvertes pendant le Covid, on apprend que les salariés du centre Gabriel Rosset, c'est ce truc qu'on connaît à Lyon sous le nom du Père Chevrier, le vrai nom c'est centre Gabriel Rosset, que ces salariés se sont mis en grève hier après-midi. Ces salariés dénoncent les conditions dans lesquelles la restructuration du site doit avoir lieu. Alors si vous voulez voir à quel point c'était mal parti cette histoire de restructuration, le projet avait été dans un premier temps appelé « réhumanisation ». Avant que un langage un peu plus Startup Nation compatible ne soit adopté, et maintenant ça s'appelle CGR 3.0. Pour faire vite, le site va être coupé en deux pendant qu'une partie des salariés et des personnes du coup qui sont hébergées seront envoyées à Vez. L'autre moitié des gens resteront sur le site actuel au milieu des travaux. Et pour ne rien gâcher, un nouveau dispositif d'accueil va être ouvert, dispositif sur lequel trois des salariés actuels seront transférés. Les salariés, qui n'ont semble-t-il pas été consultés, s'inquiètent notamment du sous-effectif et des dégradations des conditions de travail induites par les choix effectués par la direction.
Pénurie d'essence. Le gouvernement interdit aux automobilistes de se rendre dans les stations essence avec des jerrycans. Et pour la pénurie de pognon, le gouvernement va-t-il interdire aux ministres de se rendre en Suisse avec des valises ?
C'est à moi, pardon, j'ai pas de casque, alors je sais pas trop où on en est. Vous avez, je suppose, tous entendu parler de la grève dans les raffineries. Les salariés ont décidé que, puisque le gouvernement n'allait pas taxer les super profits réalisés avec l'explosion du cours du pétrole, ils pouvaient en prendre leur part. Résultat, hier, le gouvernement a menacé de réquisitionner les salariés en grève et a même, un peu plus tard dans la journée, demandé au préfet de réquisitionner l'intégralité des salariés en grève. En théorie, l'OIT, donc l'Organisation Internationale du Travail, qui est le truc qui régit le droit du travail, mais qui est surtout un organisme consultatif, avait rappelé en 2006, suite à la même décision, mais pour la réforme des retraites, que ce genre de réquisition était une atteinte claire au droit de grève et qu'il ne fallait pas la faire. Mais ça ne semble pas gêner grand monde au gouvernement. Il faut dire que, vu le nombre de ministres poursuivis, il faut croire que ne pas respecter la loi, c'est plutôt bien vu chez les macronards. Toujours est-il que la CGT n'a pas trop apprécié la manœuvre et a fait savoir par communiqué qu'elle se retirait de toutes les négociations en cours, quel que soit le sujet. C'est toujours possible d'aller rencontrer à Lyon les camarades qui sont en grève et qu'on peut retrouver sur le pont de Fézin. Pour l'adresse, c'est 8 avenue Jean Jaurès à Fézin. Toujours dans le secteur de l'énergie, les salariés de maintenance des centrales nucléaires qui sont en grève. La centrale du Tricastin dans la Drôme, de Cruas en Ardèche, du Bugey dans l'Ain et de Quintenon, je ne sais pas comment on dit.
Quintenon,
en Moselle, sont notamment en grève. Et ce qui retarde, pour certains, certains des sites, le retour à la normale qui devait nous sauver des problèmes d'électricité cet hiver. Et il semblerait que la grève soit partie pour s'étendre, puisque demain, c'est la centrale de Gravelines dans le Nord, qui apparemment est la plus grande centrale d'Europe de l'Ouest, qui se joindra à la partie. En région lyonnaise, les salariés de la garde Perrage, enfin les salariés d'entretien de la garde Perrage sont en grève depuis 3 jours. Alors, dans l'entretien, quand un marché public est remis en jeu, le nouveau gagnant du marché est censé reprendre les salariés de l'équipe précédente. La métropole de Lyon a trouvé une solution pour se débarrasser des salariés de l'équipe précédente jugés un peu trop revendicatifs, et ils ont pour ça refilé le marché à une entreprise d'insertion. On va pas trop vous parler de ce qu'on pense de l'insertion, mais voilà. Face à cette forme de licenciement illégal, les salariés se sont donc mis en grève et exigent de la métropole des garanties sur l'emploi. Pour finir, les étudiants et étudiantes ont eux occupé les bureaux de la présidence de Lyon 2 lundi pour réclamer des places pour les étudiants sans fac. Mardi, ils se rassemblaient dans la cour d'honneur de l'université, toujours Lyon 2. Le motif de leur colère, c'est que depuis l'instauration de Parcoursup, tous les ans, un certain nombre d'étudiants restent sur le carreau et n'ont pas de place à l'université, tant à l'entrée en licence que à l'entrée en master. Donc, ils réclament des places pour tous et toutes.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Ah, et on va parler d'Idriss Déby.
Ah, c'est à moi. Alors, Idriss Déby, oui, parce que figurez-vous que Idriss Déby vient d'être investi président du Tchad. Alors, vous allez me dire, Idriss Déby, Tchad, ça me dit quand même un truc. C'est ça. C'est vrai que depuis 1990, finalement, Idriss Déby dirige le Tchad. Et oui, mais c'est plus le même. Enfin, plus le même qu'en 90, mais c'est quand même le même que depuis quelques temps. Un petit retour en arrière. En 1990, Idriss Déby, le père, prend le pouvoir au Tchad à la faveur d'un coup d'État. Et après, ma foi, il reste un peu au pouvoir parce qu'il remporte l'élection présidentielle de 1996, et puis il remporte l'élection présidentielle de 2001, et puis celle de 2006, et puis celle de 2011, et puis celle de 2016, et puis celle de 2021. Tout ça avec
il est vachement fort en élection.
Ouais, mais il est vachement. Et il est d'autant plus fort qu'à chaque fois, il gagne plutôt au premier tour avec des scores qui oscillent entre 63 et 90% selon les années. Alors peut-être parce que le peuple tchadien a été tellement fan de son président, ou alors plutôt peut-être parce que sa gestion de l'opposition politique n'a pas laissé beaucoup d'autres choix à ceux qui voulaient une transition que le choix de prendre les armes. Et de fait, Idriss Déby, le père, a passé une bonne partie de sa vie à combattre différents groupes rebelles qui voulaient le dégager. En gros, sous sa présidence, il y a bien une chose que le Tchad a réellement réussi, c'est d'avoir une armée, une vraie armée, une armée bien entraînée, bien armée, bien puissante, ce qui n'est pas massivement le cas dans les pays africains, et accessoirement, une armée facilement au service de la France. Enfin, service à double sens d'ailleurs, parce qu'il y a eu plusieurs fois, par exemple en 2005, où c'est bien l'armée française qui a sauvé la mise à Idriss Déby, le père, quand sa capitale était assiégée par les rebelles. Mais c'est vrai aussi que quand la France a besoin de faire telle ou telle guerre en Afrique, mais pas d'avoir trop cette image d'armée coloniale, les blancs qui arrivent et qui niquent tout, facilement la France demande au Tchad, et le Tchad c'est pas pareil, c'est une force interne interafricaine ou quelque chose comme ça. Voilà, échange de bons procédés entre la France et Idriss Déby. Mais à force de faire beaucoup la guerre, on court parfois des dangers. Et il y a un an et demi, en avril 2021, Idriss Déby père se prend une balle. Alors à l'époque, il y avait eu toute une polémique, mais bon, vraisemblablement se prend une balle, il était juste derrière le front, et il passe l'arme à gauche. Alors là, quand le président meurt, ma foi, au Tchad, comme un peu partout ailleurs, il y a une constitution. Et la constitution tchadienne prévoit que dans ce cas, c'est le président du Sénat qui va prendre la tête du pays et qui organise des élections 30 à 45 jours après le moment où le président a fait défaut. Mais une constitution, ça ne sert à quelque chose que si quelqu'un, quelque part, y croit. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas tout à fait ce que prévoit la constitution, vu qu'en vrai, personne n'en avait rien à branler. C'est plutôt un coup d'État au profit de, et c'est là, de Idriss Déby. Cette fois, c'est le fils Mahamat Idriss Déby, le fils de Idriss Déby, l'autre, qui lui n'avait pas de prénom apparemment.
C'est pratique, ça fait des économies, il n'y a pas besoin de refaire tous les papiers de la présidence.
Mais tout à fait. Alors si quand même, parce que pour le coup, il n'a pas été président exactement pareil que son père, puisque malgré tout, tu vois, je veux dire, dans ces cas-là, ça, c'est bien aussi de prévoir un retour à l'ordre démocratique normal. Donc ce Idriss Déby le jeune n'est pas vraiment président, il prend la tête d'un conseil militaire de transition et en vertu de la charte de ce conseil, donc rien à voir avec la constitution, hein, il occupe quand même la fonction de président de la République. Bon, si, d'accord, c'est vrai, t'avais raison. Le conseil militaire de transition annonce prendre le pouvoir pour une durée transitoire de 18 mois, à l'issue de laquelle, bien sûr, des élections devront être organisées. Normalement, dans ce cas, la communauté internationale, au moins, elle fait un peu les gros yeux, elle se fâche un peu, elle parle d'un retour à l'ordre constitutionnel, tout ça. Bon, là, non. En gros, tout le monde s'en fout, sauf il y a quand même au moins un président qui s'en foutait pas du tout, c'était Macron. Alors Macron, il s'en foutait pas, mais ça ne veut pas, absolument pas dire qu'il parlait d'ordre constitutionnel, hein. Mais alors pas du tout, du tout. Macron, il s'est plutôt rendu aux funérailles de Déby père, et il en a profité pour s'afficher devant toutes les caméras de la presse internationale en train de serrer la paluche à Déby le fils. Le message était clair, la démocratie, ça ne concerne pas les Tchadiens. Et le message a d'ailleurs été très bien entendu en Afrique. Et c'est vrai que depuis, à chaque fois que la France s'indigne devant tel ou tel coup d'État, ou pour le coup, c'est ceux qui prennent le pouvoir ne sont pas des alliés de la France, ou pas forcément, ou que ça risque d'être plus compliqué. Ça peut arriver au Mali, ça peut arriver au Burkina, ça peut arriver n'importe où. Et la France, à ce moment-là, dit « Oh, quand même, la Constitution, la démocratie, nanana ». À chaque fois, la presse africaine en entier rappelle cet épisode du passage de pouvoir entre Déby et Déby. Bon, au bout de la durée transitoire de 18 mois, celle à laquelle, après laquelle il devait y avoir des élections, eh bien, ma foi, non, en fait, il n'y a pas vraiment d'élections. Mais quand même, attention, on n'est pas pareil. On passe à une nouvelle... Alors, ça veut dire maintenant, hein, au bout des 18 mois, c'est maintenant, c'est début octobre. Mais pas d'inquiétude, quand même, les choses avancent, puisqu'on passe à une nouvelle phase du processus. Et voilà, donc tout va bien. Idriss Déby, qui jusque-là était président de la République à la tête d'un conseil militaire de transition, est, depuis lundi avant-hier, président de transition du Tchad. Ah ben voilà. Vraiment, on avance vers une voie de la redémocratisation du Tchad. Bon, cette transition-là devra durer maintenant 24 mois. Pas 24 mois à partir d'avril 2021, 24 mois à partir de lundi. Donc jusqu'à octobre 2024. Alors là, bah, la France, courageusement, ma foi, ne fait aucun commentaire. C'est vrai que ça commence à faire vraiment, vraiment tâche. Mais du coup, là, vraiment, il y a eu quelques commentaires en off de diplomates qui ont déclaré ci ou ça au Monde. Oui, le Tchad, c'est vrai, on est un peu embêté, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est quand même le mieux qui pourrait se passer. Et la suite ? Et bien la suite, le site burkinabé d'info en ligne Wakat Sera nous donne son hypothèse que...
Je pensais pas que t'aurais cité ce journal.
Ah.
En général, bon.
Non, mais il y a plusieurs journaux.
Tu lis pas que l'Observateur, pas le gars, quoi.
Donc cette fois-ci, c'est bien Wakat Sera qui nous dit « Cerise sur le gâteau, le fils du père a la possibilité, en tant que président de la transition, et le droit de se présenter à l'élection présidentielle prévue dans 2 ans. Et comme, sous les tropiques, la règle non écrite mais établie et séculaire est de ne pas perdre une élection qui est organisée par soi-même, le Tchad, sauf tsunami, est lancé dans un nouvel épisode du film Déby Forever. »
Canu Info.
On retourne en Europe. Hein, et c'est un article du Monde qui nous détaille le traitement à géométrie variable des réfugiés de la guerre en Ukraine. Cela fait 8 mois que la guerre a commencé en Ukraine et pour les étudiants et étudiantes africains et africaines qui ont fui le conflit ukrainien, rien n'est réglé. Ils n'ont pas accès aux guichets spécifiques pour les réfugiés ukrainiens et ne bénéficient pas de la politique d'accueil mise en place en Europe. Un premier témoignage relayé par le journal Le Monde. Manafa Tima Compaoré est étudiante de deuxième année en commerce international à Kiev. Quand la guerre a commencé, elle a fui l'Ukraine par la Pologne et décide de se rendre en France car elle maîtrise la langue. Maîtrise qui, aux yeux des trois universités à qui elle a demandé d'intégrer un cursus, n'a pas suffi puisqu'elles l'ont toutes refusé. Si les Ukrainiens et Ukrainiennes ont été accueillis de manière plutôt exemplaire en Europe, en tout cas pour le moment, l'enquête de Lighthouse Report, dont fait partie Le Monde, Le Der Spiegel, The Independent, De Groen Amsterdamer, parle d'angle mort au sujet de ses étudiants. Avant la guerre, l'Ukraine accueillait 76 000 étudiants venus d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Une discussion au sein du Conseil européen a lieu pour trancher sur leur sort administratif au lendemain de la guerre, avec la question, doivent-ils être traités de la même manière que les réfugiés ukrainiens et donc bénéficier d'une protection temporaire leur permettant un droit au travail et aux aides sociales dans les pays d'accueil. Dans un premier temps, la directive qui sort les inclut dans le dispositif. Il est hors de question de trier les personnes qui ont réussi à passer les frontières pour venir jusqu'ici. Parce qu'on se rappelle quand même déjà à la base, déjà pour fuir le conflit, les frontières étaient un peu ouverte, et encore, ça dépendait quand même grandement de ta couleur de peau. Mais voilà, donc une première mouture de cette directive valide le fait que, bon bah en fait, même traitement pour tout le monde. Mais la directive est modifiée sur pression politique, qui viendrait d'après l'enquête de The Lighthouse Report, de la Pologne, de l'Autriche, et dans une moindre mesure de la Slovaquie. Ces pays s'opposent à une extension de la protection aux ressortissants de pays tiers. La directive est donc modifiée et peuvent bénéficier de la protection seuls ceux et celles qui ne peuvent pas retourner dans leur pays dans des conditions, je cite, sûres et durables. Bon, voilà, donc à peu près, ce sera aux préfectures de juger ou aux équivalents des préfectures.
C'est-à-dire plus ou moins que c'est un peu comme s'ils faisaient une demande d'asile politique, quoi.
Oui, c'est ça. En tout cas pour des étudiants étrangers, quoi. Donc ça, bref, ils recommencent à zéro, c'est des galères insurmontables. En gros, au lieu que ce soit la même règle dans tous les États membres, chaque État membre a obtenu aussi la possibilité d'accorder ou non la protection aux ressortissants étrangers installés en Ukraine. En France, par exemple, qui, elle, n'avait pas fait de pression politique pour modifier le décret, elle a quand même décidé de ne pas accorder la protection aux personnes pouvant regagner leur pays dans des conditions sûres et durables. Peu importe, par exemple, qu'il soit impossible pour un étudiant de poursuivre ses études dans son pays d'origine. C'est notamment le cas là dans l'article d'un Camerounais qui fait des études en intelligence artificielle depuis 6 ans en Ukraine.
En intelligence artificielle
depuis 6 ans en Ukraine et qui dit tout simplement qu'en fait cette filière n'existe pas au Cameroun. Du coup, alors certes, le Cameroun est sûr et durable aux yeux des.
Ça existe nulle part,
l'intelligence artificielle ne fait pas semblant. Donc lui, techniquement, d'après cette directive, il doit retourner au Cameroun, mais il se retrouve à avoir fait 6 ans d'études pour rien. La France a délivré 4650 titres de séjour majoritairement à des conjointes de déplacés ukrainiens, d'après la Direction Générale des Étrangers de France. Le Portugal a lui accueilli deux fois plus de personnes et c'est le seul pays à ne pas faire de distinction entre les déplacés d'Ukraine. Au printemps, les préfectures, petit savoir-faire français, les préfectures ont distribué masse d'OQTF sous le motif que les personnes étaient en capacité de repartir chez elles. Hein. Tollé des associations qui, en plus de voir au quotidien la différence de traitement entre réfugiés ukrainiens et les autres, voient que les autorités font encore une distinction de plus entre les personnes ayant fui le même conflit, obligeant la préfecture à un moratoire décrété entre le 17 juin et le 30 septembre. Bon, sauf que certaines préfectures ont l'OQTF qui les démange et une dizaine d'étudiants ont reçu une OQTF malgré tout. Des erreurs administratives, disent-elles, on pourrait plutôt parler de réflexes, ce genre de truc qu'on fait sans réfléchir. Bon, de toute façon, les préfectures freinent des cas de fer et entravent les procédures avec, par exemple, des demandes d'actes de mariage des garants des ressortissants. Vous voyez, quand on est ressortissant dans un pays, on doit avoir des garants, que ce soit des garants financiers ou des garants qui disent que les gens qui t'accueillent...
D'actes de mariage des garants.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc des trucs qui les associations disons jamais, on n'a jamais demandé ça à personne. Et là, donc en gros, c'est vraiment le truc des préfectures de se mettre à de pas savoir comment gérer une situation, ou en tout cas de vouloir vraiment ne pas la gérer et bloquer les gens. Et du coup, demander, comme c'est les préfectures ont à peu près peuvent faire à peu près n'importe quoi. Ce genre de truc, de demander des pièces, et après c'est aux avocats ou avocates de contredire ces demandes de pièces, mais bon, c'est long, ça coûte de l'argent, c'est... Donc voilà, oui, et en tout cas, à la fin du moratoire, le ministère de l'Intérieur, au Grand Prince, on le connaît, annonce la régularisation de 200 étudiants et étudiantes.
Waouh.
Or, les associations estiment leur nombre à... 480, ce qui n'est pas non plus. Enfin, vous voyez, c'est le genre de truc où en fait, il aurait très bien pu.
Ils ont vraiment fait les salauds, genre pour 280 personnes.
C'est ça, exactement. Ouais,
c'est ça, en fait, du travail administratif.
Alors, sûrement parce qu'ils remplissaient des espèces de critères un peu obscurs, on ne sait pas lesquels. Bon, bah voilà, créant encore, forcément, un fort sentiment d'injustice et de colère pour les étudiants et étudiantes.
Et en fait, peut-être même un soupçon, pour le coup, de racisme pur et dur et de critères en termes de couleur de peau, parce que, je veux dire, on a tellement accueilli à bras ouverts les Ukrainiens qu'on aurait pu se dire, les plus ou moins presque Ukrainiens, on aurait pu les prendre dans la foulée, mais pour le coup, ils sont pas blancs.
Bah, oui, puis surtout que, je veux dire, en groupe... Si le flip du ministère de l'Intérieur, c'est que l'extrême droite leur tombe dessus et qu'après qu'on les traite de collabos de l'immigration, vu le nombre que ça, enfin je veux dire, ça représentait personne n'allait autour, enfin je veux dire, tout le monde s'en
connaît. Après 480 places, je sais pas si l'université française est capable de supporter ça.
Bon, alors c'était un peu ce que disaient les universités, c'était que les fonds alloués étaient pas suffisants, donc elles justifiaient leur refus de les intégrer dans ce truc-là, et voilà. Bon, après j'imagine que par exemple pour l'autre guichet qui était les Ukrainiens ou Ukrainiennes, c'était le truc se posait moins et que l'État lâchait beaucoup plus de thunes à raison, quoi. Donc je veux dire, là ils auraient pu lâcher une enveloppe supplémentaire sans problème, mais voilà.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et c'est l'heure du reportage.
Velika Kladuša, c'est une toute petite ville au nord de la Bosnie.
Martino, volontaire de l'association No Name Kitchen.
Et on est à entre 5 et 10 km de la frontière avec la Croatie. Et bon, à cause de cette proximité de la frontière, y a beaucoup de monde qui vient ici pour essayer de passer la frontière et de rentrer en Croatie. Le fait, c'est que la frontière est extrêmement militarisée dans ce moment-là. Il y a la police croate qui a vraiment commencé à envoyer beaucoup, beaucoup de policiers à la frontière. Ils ont beaucoup de technologies, toutes les technologies qui existent, elles l'ont. Et donc, ici, ça devient un petit peu comme un... Comment ça dit, c'est vraiment un peu un cul-de-sac dans la route des Balkans. Parce que, dès que la frontière est si militarisée, les gens sont rejetés. Vraiment tous les jours. Il y a des groupes qui rentrent de la frontière tous les jours. Et parfois ils sont blessés, parfois ils sont vraiment traumatisés par les violences qu'ils ont
vues.
Paola, volontaire de l'association No Name Kitchen. C'est une étape de plus dans cette succession de frontières qui est gérée par l'Union européenne. C'est un endroit où les personnes en mouvement arrivent, ils ont l'espoir de passer, ils peuvent être déjà assez traumatisés, et souvent ils le sont encore plus après, parce que je crois, d'après ce qu'ils en disent, que ça semble être une frontière très difficile à passer.
When first people started coming, like the numbers are very, very, were very, very small, like just several people there.
Alma, habitante de Velika Kladuša, et bénévoles de l'association locale Rahma.
They stayed in our park, in the park, and then like they just started the number of the tents.
Au début, quand des réfugiés ont commencé à arriver au printemps 2018, ils étaient assez peu nombreux. Ils dormaient dans des tentes dans le parc du centre-ville. Et puis le nombre de tentes a augmenté. Et le gouvernement local a décidé qu'ils devaient quitter les lieux. Ils leur ont trouvé des champs et ont juste mis les tentes là avec quelques installations sommaires, comme des douches. Le premier hiver, il y a eu un mouvement de contestation des réfugiés. Les personnes du camp sont allées toutes ensemble vers la frontière pour protester, dire qu'ils voulaient être acceptés en Europe. Ils sont restés quelques jours à la frontière, ils ont été virés, et ça a été le premier camp qui a été conçu comme une solution provisoire et qui a duré pendant plus de 3 ans, jusqu'à ce qu'il soit fermé en mai dernier. Il y avait parfois plus de 1000 personnes et parfois juste une centaine.
Was closed this year in May. So all these years, the people were there. Sometimes more than 1,000 people, sometimes 100 people. But after the camp was closed, all these people who stayed
have been. Après la fermeture du camp, les quelques personnes qui restaient se sont débrouillées avec les squats autour de la ville. Maintenant, c'est plus précaire et ce sont des personnes qui restent moins longtemps, seulement quelques jours pour franchir la frontière.
Mais aussi. Ici, à Claudusha, je crois que ça, ce qui a changé beaucoup maintenant, c'est qu'avant, ça fait 2 ans, 3 ans, les prisons étaient les camps. Les camps, le camp de Lipa, le camp de Miral, le camp de Bihać, ils étaient vraiment des prisons. L'amener ici de toute la Bosnie, de tous les Balkans, pour les garder ici, en fait. Et la prison, c'était vraiment le camp, parce que de sortir du camp, c'était difficile. Et d'après, les camps se sont relaxés beaucoup. Et maintenant, la vraie prison, c'est la frontière. Mais je crois que ce que ça changeait, qu'avant, ils avaient ces camps qui étaient vraiment des prisons, parce que la frontière n'était pas assez militarisée. De passer, c'était pas à 100% sûr que tu auras avoir un pushback. Mais là, maintenant, c'est vraiment 90% sûr. Que tu auras un pushback. Non. Je commence pas avec les personnes toi parce que c'est faux, mais quand même.
Et pas seulement à la frontière. Beaucoup de gens arrivent à Zagreb et sont expulsés de nouveau alors qu'ils pensaient avoir atteint leur destination.
Et vraiment, chaque groupe que tu rencontres dans les squats a son histoire. Des pushbacks et donc c'est vraiment c'est même pas est-ce que la police a fait des violences sur toi, mais c'est quelle violence t'as fait la police. C'est vraiment comme ça, surtout c'est la police croate, c'est vraiment surtout la police croate. Et d'après, oui, ils sont des jeunes qui travaillent pour eux, qui ne sont pas policiers, c'est des trucs un petit peu comme ça. Et quand les jeunes qui migrent rentrent en Bosnie, parfois, la police bosnienne les amène de la frontière jusqu'à un endroit random en Bosnie. Et ils font ça pour les éloigner de la frontière, pour les démotiver, pour et tout ça. Et tout en fait, une nouvelle chose qui passe beaucoup, c'est que la police croate, il les prend dans des vannes, et il conduit pendant 5 heures, 6 heures jusqu'au tour. Ils vont au nord, au ouest, pour les perdre. Exactement ça. Et après, ils les laissent en Bosnie, dans un endroit random, complètement, loin de tout. Et après, ça devient extrêmement dangereux de retrouver la route, retrouver Velika Kladuša pour essayer de passer. Et donc, comme ça, il ne peut pas réessayer le jour d'après. Et il ne peut pas réessayer la veille. Ils vont réessayer 2 semaines après, 3 semaines après.
C'est peut-être quand on parlait de violence auparavant.
Inès, volontaire de l'association No Name Kitchen.
Celle-ci, c'est une autre forme de violence, non? C'est pas à la frontière, mais c'est au chemin de ces personnes en mouvement qui voient leur droit à violer. Ici, on a des voisins, c'est une famille avec des petits enfants. Et est-ce qu'ils sont d'une éducation? Est-ce qu'ils sont de quoi manger? Est-ce qu'ils sont de quoi d'être dans un lieu sécure? Parce que dans ces moments-là, on le voit et on voit la mère qui est et non, mais je joue pas parce qu'on va, on peut pas faire de bruit. Alors la police ne peut pas nous voir et alors ça, c'est pas une vie en dignité.
On a eu une guerre en Bosnie. En quelque sorte, on a tous été réfugiés. Et tout le monde s'est senti au début très compréhensif de la situation des personnes qui arrivaient. Tout le monde a été très solidaire, je pense, pour cette raison. Mais après, je pense que c'était trop pour la population locale. Les camps étaient là depuis trop longtemps. Le gouvernement local ne faisait rien. Personne n'apportait de l'aide. Et il fallait bien continuer à vivre. Donc je crois que les gens étaient assez fatigués de la situation.
And this is a small community, completely and totally unprepared.
Dario, habitant de Velika Kladuša, est solidaire des réfugiés.
And every level of the government failed.
Et c'est une petite communauté, absolument pas prête à vivre ce genre de situation. Mais en fait, tout le pays et chaque niveau du gouvernement a échoué à trouver une solution. La plupart des habitants qui ont été solidaires au début le sont restés. Mais il y a une faible part très active et très bruyante qui s'est mise à protester contre les réfugiés. Maintenant, ça s'est calmé, notamment parce qu'il y a moins de réfugiés ici. Personne n'en parle plus, ce n'est plus un sujet politique comme ça l'a été.
From the beginning, they behaved like that there are no refugees. Their policy was we're going to pretend that there are no refugees here.
Au début, le gouvernement se comportait comme s'il n'y avait pas de réfugiés ici. Et donc, il n'avait à être responsable de rien. Et je pense d'ailleurs que cette colère qu'a eue une partie de la population n'était pas tant contre les réfugiés que contre le gouvernement. Mais au moins, on n'a jamais eu le type de solution qui a été mise en place en Republika Srpska, la seconde fédération de Bosnie, où il n'y a absolument pas de réfugiés parce qu'ils les rejettent systématiquement.
The Bosnian police is just a super bad appendix of the Croatian
Karina,
police.
Volontaire de l'association No Name Kitchen.
That they can manage the situation because they're entering in
Quant à la police bosnienne, elle est juste un très mauvais appendice de la police croate. Parce que la police croate doit prouver qu'elle peut gérer la situation, parce qu'elle est entrée dans l'Union européenne, alors elle est extrêmement violente. Et la police et les autorités bosniennes se contentent d'essayer de freiner ou de stopper les soutiens aux réfugiés à chaque fois qu'ils le peuvent.
It all started somehow when Corona started, this all illegal thing.
La répression de la solidarité a commencé avec le Covid. Il était interdit d'être trop nombreux au même endroit, mais les réfugiés et les solidaires étaient évidemment toujours en groupe. C'est comme ça que ça a commencé. Et dans les médias aussi. Si ce n'est pas accepté, et puis il en découle que ce n'est pas autorisé, et donc que c'est contraire à la loi. Et ensuite, il suffit juste d'écouter les rumeurs comme quoi ça serait illégal, et ça suffit à effrayer tout le monde. Je me souviens d'une fois où j'étais dans un squat, habité par des réfugiés. La police est arrivée et m'a demandé ce que je faisais là, en me disant que c'était illégal. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient dire par là. Qu'est-ce qui était illégal exactement? J'ai des vêtements, je veux les donner, je ne crois pas que ça soit illégal. Et ils n'ont plus rien dit, parce que justement, ça n'est pas illégal. Il n'y a pas de logique, il n'y a jamais eu de loi clairement écrite qui dit que c'est interdit de donner quelque chose à quelqu'un. Mais la police utilise cet argument pour nous faire peur, et ça marche pour beaucoup de personnes. Il y en a beaucoup qui me donnent des choses, par exemple, pour les réfugiés, mais en me demandant de ne pas dire que ça vient d'eux.
And it worked with a lot of people because I've had a lot of people giving me stuff but saying don't say it's from me.
Et je peux raconter notre cas, ce qui s'est passé la semaine dernière.
Donc le cas de No Name Kitchen.
C'est oui, le cas de No Name Kitchen. Ce qui s'est passé, c'était jeudi matin et on voit des policiers qui arrivent à la warehouse. C'est le lieu de stockage. On était tous là parce que d'habitude on restait là pour faire des rendez-vous et tout ça. Et c'était, en fait, c'était pas la police, c'était le service des affaires étrangères. Ouais, c'est exactement ça. Ils nous ont demandé les documents, les passeports. Et ils ont tout marqué. Et après, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à dire, à poser des questions sur la maison, sur le bâtiment. Ils demandaient qui est le propriétaire du bâtiment, si on paye pour être dans le bâtiment pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait là dans le bâtiment. Il y avait un stockage énorme des vêtements, des chaussures, des médecines et tout ça. Et donc, ils ont vraiment insisté sur voir le propriétaire. Je crois qu'il a trop parlé. Il a dit qu'on travaille en fait avec les jeunes qui migrent. Il a trop parlé. Ils ont regardé le premier étage. Évidemment, nous, on avait plein de posters partout. Des troupes politiques partout. Vous voyez, c'était vraiment la maison de mouvement. Et le propriétaire est resté. Il nous a dit qu'on ne pouvait plus rester dans la maison. On avait 24 heures. Pour évacuer et tout.
C'était sa décision ou la décision de la police?
C'était sa décision, tout à fait. Parce qu'il continuait à répéter qu'il n'avait pas besoin de ça dans sa vie, qu'il n'était pas au courant du fait que c'est peut-être dangereux comme... De nous avoir dans sa propriété et tout ça, je ne sais pas. C'était perçu par le team comme une vraie expulsion. Parce que il y avait... C'était pas une expulsion commandée par la police, mais c'était presque... la police, c'était... On croit vraiment que c'était leur objectif. De nous faire sortir de la maison et de nous couper les ressources dans cette manière-là. C'est vraiment comme ça, c'est la répression des activistes. Et c'est fait comme ça, c'est fait vraiment un petit peu tout court, un petit peu des intimidations, c'est pas des grands projets, des grands cas judiciaires, des arrêts de police et tout ça, c'est vraiment des trucs tout petits.
Et on se fait une petite pause musicale avec la version perse de Bella Ciao. Juste après, on retrouve l'interview. Ah,
ça ne marche pas.
Mais si, ça marche. Ah, c'est un peu brutal, désolé.
از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا.
On est ce soir avec Bahman, donc qui est réfugié politique iranien en France, et du coup qui va nous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment en Iran. Donc on rappelle très vite quand même, c'est que le 16 septembre, Mahsa Amini a été tuée par la police des mœurs parce qu'elle avait mal mis son voile. Et à la suite de ce meurtre, du coup, il y a eu des manifestations qui ont pris de plus en plus d'ampleur. Et on assiste actuellement à quelque chose qui pourrait s'apparenter à une révolution. Donc, Bahman, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe maintenant? Est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation actuelle en Iran?
Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Après la mort de Mahsa, qui était une fille de région Kurdistan iranien, donc il passait au capital iranien, les partis politiques kurdes, ils ont annoncé, ils ont demandé une grève. On a eu une grève dans plusieurs villes, notamment dans la région kurde, mais dans le reste du pays. Mais tout de suite, dans le capital et les autres villes du pays, il y avait une vague de manifestations parce que l'image, c'était très fort et très touchant. Donc, ça fait 43 ans que le peuple iranien est soumis d'un régime qui interdit toutes les libertés personnelles. Donc, la colère de 43 ans a sorti avec la mort de Mahsa. Et voilà, le pays a traversé une vague de manifestations partout au nord, au sud. Et on avoue tout de suite la répression policière, le gouvernement iranien qui tuait les gens avec le balles réelles. On avoue, ça fait plus de 3 semaines, et y a des chiffres officiels qui disent 250 morts, mais on estime que plus, et il y a centaines de milliers de personnes qui ont été appelés, il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées, même je sais qu'il y avait des amis qui, ça faisait 10 ans qu'ils ont arrêté la politique, mais parce qu'ils ont été arrêtés une fois quand ils ont été étudiants, donc la police est venue chercher ces gens-là, ils sont tous en prison. Donc c'est une révolte qui commençait par les femmes en revendiquant de droits fondamentaux pour les femmes et liberté pour les femmes.
D'accord. Et du coup, donc, tu disais que cette femme, donc Mahsa Amini, c'est une femme kurde. Du coup, la population iranienne, elle est composée de différentes ethnies, ou je sais pas comment on pourrait dire. Du coup, il y a les Kurdes et il y en a d'autres. Il y a quoi, par exemple? Il y a les Azéris.
Il y a des Azéris, il y a des Baloutches, il y a une population arabe au sud du pays, mais la relation...
Et tous ces gens-là sont dans la lutte, sont unis dans la lutte, ou il y a plus de... Du coup, il y a surtout les Kurdes, ou est-ce que c'est
Non, mais vous voyez que l'histoire des Kurdes en Iran, c'est vraiment différent des autres pays, parce que ils sont dans leur pays. L'Iran, c'est leur terre. Et comme par ailleurs, notamment, ils ont fondé l'Empire, ils ont fondé le gouvernement, ils ont gouverné dans l'histoire, dans ce pays qui s'appelle l'Iran aujourd'hui. Donc, si vous regardez le slogan, le mot d'ordre de cette révolution, femme, vie, liberté, c'est un slogan.
C'est un slogan kurde, oui.
C'est un slogan kurde qui vient de 90. Ça a été écrit par Öcalan, mais aussi c'était l'histoire que police turque attaque des Kurdes dans certains quartiers à Istanbul, a été repris dans plusieurs manifestations. Et pour rendre hommage, les Iraniens, ils ont repris cet slogan-là qui vient de mot d'ordre, c'est assez moderne, donc la relation, par exemple, le gouvernement iranien, il a misé sur ça, c'est-à-dire tout de suite, ils ont attaqué, ils ont envoyé l'armée dans la région Kurdistan, ça fait 3-4 jours qu'il y a dans certaines villes, comme on peut dire la guerre civile, et ils ont envoyé l'armée pour dire que c'est les séparatistes, mais tout de suite, les gens, dans les autres villes en Iran, par exemple, dans une ville, ils ont arrêté les envois, les convois de l'armée pour éviter que ces soldats allaient réprimer nos compatriotes kurdes au nord du pays. Donc il y a une solidarité et on voit beaucoup des slogans qui viennent des autres villes de sud. Par exemple, les Azéris disent dans leur slogan, ils disent comme par exemple, nous sommes avec les Kurdes, nous sommes donc tous iraniens. Et à Téhéran, il dit que la Kurdistan sont les yeux de l'Iran, donc c'est slogan comme ça. Et je pense que le peuple iranien est assez intelligent pour retourner cette stratégie de gouvernement islamiste, parce qu'il cherche de distinguer les gens.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui, exactement, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce qu'il y a, du coup, il y a des manifestations tous les jours ? Il y a quoi ? Il y a des grèves aussi ? Il y a des secteurs de la société qui sont en grève ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des mairies qui sont occupées ? Comment ça se passe sur le terrain ? Alors, j'imagine que c'est peut-être différent selon les villes, mais est-ce que tu as un petit peu des exemples pour nous montrer et nous expliquer concrètement comment ça se passe ?
Bah, il y a des manifestations tous les jours. Mais en ce moment qu'on est en train de parler, je salue tous les gens qui sont en Iran dans les rues, et c'est eux qui sont en train d'écrire l'histoire. Il y a des manifestations tous les jours. Il y a des gens qui ont attaqué des commissariats. Il y a des gens qui ont pris de commissariat, mais temporairement. Après, ils ont quitté la lieu. Mais il y a une guerre entre l'armée, la police et les gens. Donc, sauf que les gens, ils n'ont pas armé. Ils ont des mains vides et la police est complètement armée. Ils attaquent des gens avec les balles réelles. Et pour vous dire, à côté de ça, il y avait des mouvements étudiants qui rejoignent des mouvements et le mouvement ouvrière qu'ils ont rejoint il y a 3 jours en annonçant de grève dans certaines villes, dans certaines raffineries. Donc, et ça, c'est une étape importante. On attendait. Il y avait beaucoup de politiciens, il y avait beaucoup de demandes, notamment des adolescents au lycée. Même eux, ils ont demandé des travailleurs que c'est là le moment de grève et on a besoin de vous. Et les travailleurs, ils ont répondu, donc ils ont mis en grève. Et là, maintenant, ce qui passe, chaque secteur, ils disent qu'on a besoin de soutien des autres secteurs, c'est-à-dire que les travailleurs entre eux. Parce que le syndicat, c'est interdit en Iran. On ne peut pas avoir le syndicat. C'est considéré comme une action terroriste, avoir le syndicat.
Il n'y a pas de droit de grève, donc c'est des grèves sauvages, c'est ça ?
Ben oui, hein, c'est sauvage. Donc, ils ont arrêté plusieurs travailleurs au sud du pays parce que vous ne devrez pas faire la grève. Mais, malgré tout, ils continuent de faire la grève.
Donc effectivement, donc ce mouvement fait tache d'huile, donc la contestation prend plusieurs formes, donc il n'y a pas uniquement les manifestations, les grèves. Il y a aussi, du coup, on a vu il n'y a pas longtemps, il y a eu une image quand même assez frappante, c'est que au moment où le guide suprême, comme on l'appelle en Iran, faisait un discours à la télévision, ça a été piraté, donc ça a été coupé. On a vu son image avec lui avec du feu et les trois femmes martyres, Mahsa Amini et d'autres, avec marqué, je sais plus c'était quoi le message. Le sang que tu as versé te retombera dessus, quelque chose comme ça. Et du coup, donc c'est quand même incroyable avec tout le pouvoir qu'on imagine de ce guide suprême de s'être fait pirater. Et est-ce que les gens qui ont piraté se sont fait arrêter ou il y a eu une enquête ou est-ce qu'on a des nouvelles d'eux ou d'elles, par exemple ?
Non, c'est une collective qu'ils ont dans le pays. De toute façon, non, ils piratent. Ils ont piraté déjà des caméras de prison il y a quelques mois. Ils ont piraté cette fois la télévision et aussi... Bah, je remercie Anonymous aussi. Oh, ils ont fait beaucoup de choses aussi. Mmh. C'est un collectif des hackers, comme on dit. Donc, il y a vraiment une guerre dans ce sens-là aussi. Donc,
une guerre
des informations. Donc, non, ils n'ont pas arrêté. Je pense vont le refaire encore. Et ça, c'était un coup dur pour le gouvernement parce que millions de personnes, parce qu'en Iran, les gens qui ont Internet, satellite, ils peuvent regarder, mais il y a beaucoup de gens qui regardent que la télévision. Donc, c'était un choc pour plusieurs personnes. Dans ce pays, ils ont dit OK, surtout dans les petites villes et villages. Et moi, je pense que dans les semaines prochaines, la révolution va gagner les villages aussi. C'est intéressant parce que là, on voit dans l'école, dans le collège, il y a des enfants de 14 ans qui ont arrêté des enfants de 14 ans. Et le ministre de l'Éducation dit on voulait apprendre à ces gens-là de discipline. Et après, on dit, mais pourquoi vous avez mis ces gens-là aux prisons ? C'est pas en prison qu'on apprend la discipline. Donc, non, ils ne peuvent rien faire. C'est dépassé. Donc,
D'accord. Moi, j'ai une autre question aussi. Donc, ce mouvement révolutionnaire ou cette révolution, elle est aussi issue d'une culture révolutionnaire en Iran. Il y a déjà eu plusieurs mouvements révolutionnaires. Est-ce que ces mouvements-là ont servi à ce mouvement qui se passe maintenant ? Est-ce que les Iraniens ont appris de ces anciennes luttes, le mouvement ouvrier d'avant 79 ou les révoltes étudiantes de 99 ou est-ce que tu penses qu'il y a des liens entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant ?
Sans doute que tout ce qui a été fait avant ça sert à cette génération qu'ils ont dans la roue, mais ce qui est important, eux, ils ont une génération de TikTok, d'Instagram, qui avaient la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, et ils regardent, par exemple, anecdote, j'ai rencontré des étudiants de lycée à Croix-Rousse, ici à Lyon, et ils ont dit, on sait qu'est-ce qui se passe en Iran. Et je dis, mais comment vous savez? Il dit, parce que sur Instagram. Donc, il y a une connexion. Et en Iran, les gens utilisent VPN pour aller sur Internet. Donc, et ce génération, c'est qu'ils ont à la fois hérité de les générations avant, mais aussi, ils ont une connexion avec le monde. Et c'est ça que pour la première fois, on voit. Il y a une telle solidarité partout dans le monde avec le révolte en Iran.
Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser du coup à une autre question. Tu dis qu'il y a une grosse solidarité mondiale. D'ailleurs, c'est le gouvernement, comme à chaque fois qu'il y a un mouvement insurrectionnel ou là révolutionnaire, on pourrait dire, accuse les puissances étrangères de le manipuler. Qu'est-ce que tu penses de ces accusations quand l'Iran dit que derrière les manifestations, c'est les Américains? Qu'est-ce que tu penses de ces accusations?
c'est classique. Ils ont arrêté 5 Français, hein, 5 touristes français aussi, qui ont été en Inde pour faire le yoga, je ne sais pas quoi. Après, ils ont passé en Iran et ils ont arrêté ces gens-là. Ils disent, ces gens-là, ils ont de services de renseignement français. Et après, ils disent tout le temps qu'il y a des Israéliens, des Américains et les puissances occidentales derrière. Mais non. Et les gens, ils ont répondu. Ils disent que notre ennemi, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'étranger. Donc ça, c'était un slogan pour répondre guide suprême. Donc non, ça c'est le méthode stalinien qu'ils utilisent, ce gouvernement, c'est-à-dire que ils arrêtent les gens. Par exemple, ils ont tué une fille. Le Mahsa a été tué par la police. Et ils ont dit, c'était un arrêt cardiaque. Mais comment une fille de 22 ans peut avoir un arrêt cardiaque? C'est pas possible. L'autre, elle a été tuée. C'est une fille de 16 ans. Ils ont dit, non, elle était dans un bâtiment. C'est quelqu'un d'autre qui l'a tuée. Alors que... quand la police a arrêté cette fille, ils ont appelé à sa famille qu'on a arrêté votre fille. Mais ils n'acceptent pas. Donc, l'autre, au Sanandaj, dans la région Kurdistan, ils ont tiré une balle réelle dans la tête d'un jeune et ils ont dit parce qu'il était dans la voiture en train de sonner, de klaxonner. Donc, non, ils tuent, mais ils misent surtout sur les étrangers. Ça, c'est une façon de garantir leur sympathisants pour dire que nous, on est en face d'une puissance étrangère, donc il faut nous soutenir. Oui. Mais ça ne marche pas.
D'accord. Et moi, j'ai une autre question du coup. Est-ce qu'il y a des tendances politiques différentes à l'intérieur? Est-ce que par exemple, est-ce qu'on sait s'il y a des groupes anarchistes en Iran et qu'est-ce qu'ils en disent de cette
Je vais répondre aux compositions politiques, mais il y a certaines distinctions. C'est la première fois dans l'histoire, à ma connaissance. Après Renaissance, par exemple, en Europe, dans l'histoire moderne, je veux dire, c'est la première fois qu'il y a une révolte contre une puissance religieuse. parce que les autres révoltes étaient contre puissance avec les idéologies terrestres, mais ça c'est une idéologie céleste, donc c'est ça. Et c'est la première fois que les femmes, ils ont commencé en révolte et les hommes, ils soutiennent. Voilà, ils ont subi. Et les femmes sont la première. Et c'est la première fois que la religion a été critiquée à tel niveau en Iran, de toute façon. Donc, les groupes politiques, si je peux donner une image, vous imaginez une armée sans chef qui est entourée par l'ennemi, mais il résiste. C'est ça, les gens qui sont dans la rue en Iran. Non, il n'y a aucun parti politique. Et cette génération n'accepte pas aucun parti politique, mais tous les mouvements politiques, ils essayent plus ou moins d'avoir un effet sur ce mouvement. Mais jusqu'ici, je peux vous dire qu'il n'y a aucun parti politique qui peut dire qu'on fait ça. Les camarades anarchistes en Iran, ils n'ont pas nombreux, malheureusement, mais ils font leur travail, je pense.
Mais quand tu dis tous les partis politiques ont essayé, ça veut dire qu'il y a quand même des partis politiques d'opposition en Iran?
Il y a des partis politiques d'opposition qui datent de 50 ans. Ils ont à l'extérieur de pays, donc ils ont en Europe, par exemple, différents courants politiques, ils ont des partis politiques.
D'accord, mais qui sont en exil.
S'il
y a des gens en Iran, ils sont clandestins, c'est pas des partis légaux.
Oui, ouais. Non, partis légaux, vous imaginez être anarchiste ou communiste, avoir un parti politique en Iran? Non.
D'accord, et moi je me demande aussi, est-ce que toi t'as une... Par exemple, tu as une idée de comment le mouvement pourrait évoluer, de ce qui va se passer, de qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce que toi t'aurais envie qu'il se passe, est-ce que... Voilà, sur le futur, est-ce que tu peux nous dire un mot sur le futur de cette révolution?
Après 3 semaines, le gouvernement iranien dit que, bon, finalement on a entendu votre colère, mais on va négocier. Et les gens, ils ont répondu, on va faire la guerre. Donc, ah oui. C'est-à-dire que non, c'est une révolution en continu. Donc, les gens, ils vont continuer de révolter. Mais après la révolution, c'est comme tous les combats. Il y a un moment que vous arrêtez, il y a un moment que vous attaquez. Mais là, 3 semaines en continuation de révolter. Et ce qui est intéressant, et chaque fois, il y a des villes, même sans aucune coordination. Par exemple, il y a certaines villes au sud et certaines villes au nord de deux pays, et ils révoltent pour éviter que la violence policière
se concentre sur un seul endroit,
et ça c'est intéressant. La seule revendication que j'ai vue, c'est il y a des annonces comme les jeunes de quartier. C'est-à-dire que les gens, ils ont commencé de s'organiser dans le quartier, et les gens de quartier, sur le média, ils annoncent que voilà, on va faire la manifestation tel et tel jour.
Quand tu disais que les gens s'organisaient, en tout cas, qu'il y avait un truc d'éviter que les forces de police se concentrent à un endroit, moi j'ai entendu dire que, contrairement à d'autres révoltes qu'il y avait pu avoir en Iran, là, cette fois-ci, le mode de protestation, c'était pas tant qu'il y ait des énormes manifs dans les villes qui risquaient de se faire violemment réprimer, mais qu'il y ait beaucoup, dans énormément de villes, plein de petites actions, notamment des feux au milieu de la rue qui provoquent des attroupements, et ça à plein d'endroits, afin d'épuiser les forces de police et que le mouvement puisse continuer d'exister sans subir une répression de dingue, enfin encore plus que ce qu'elle pourrait avoir lieu. Est-ce que toi tu confirmes ce truc-là?
Je confirme, on apprend chaque fois que les gens ils manifestent, donc après ils ont une compte-rendu de ce qui est passé, donc ils apprennent, et je pense que c'est une bonne stratégie. Mais oui, je confirme, et les gens ils ont appris, par exemple, tous les manifestations c'était le soir, et on avoue, Ahvaz, c'est une ville au sud, ils ont sorti dans la rue à 11h du matin, donc ils ont organisé pour ça. Parce que la police était jusqu'à 2h, 3h du matin dans la rue dans les autres régions. Ils ont dormi, ils ne pouvaient pas venir, réprimer. Et ça, moi, je trouve très intéressant et intelligent.
D'accord. Bon, et du coup, bon, bah, dernière question alors, parce qu'on va, on va bientôt. Après, tu pourras rajouter quelque chose si tu veux.
Non, on a du temps parce que l'émission d'après n'a pas lieu, donc on a un peu de temps si on veut développer.
Tout à fait. Mais du coup, qu'est-ce que. Merci de m'avoir coupé. Non.
Ah, t'as perdu ta question.
qu'est-ce qu'on peut faire alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici pour. Quelles actions de solidarité on peut faire ici pour soutenir la révolution qui se passe actuellement en Iran?
Moi, je pense que, comme tous les révolutionnaires dans le monde et comme toutes les révolutions, ils ont besoin de l'espoir et il faut donner cet espoir des gens, qu'il faut envoyer ce message que nous, on vous regarde et on vous soutient. Donc, c'est ça le message d'espoir. Et ça fait beaucoup par la société civile en France aussi. Et participer dans les manifestations, rassemblements qu'il y a dans toutes les villes ici en France. Donc, moi, je pense que ça suffira. Nous, on ne demande rien du gouvernement français, par contre. Et, on n'aura pas besoin, de toute façon. Et je pense que les Iraniens, ils sont assez fiers et ils ne demanderont jamais. Mais si le gouvernement français... Ça intéresse et c'est intelligent. Je pense qu'ils devraient arrêter, par exemple, les proches de régime qui achètent Nice aux Côtes d'Azur. Donc, bloquer ça parce que c'est l'argent du peuple iranien, c'est pas l'argent de ces gens-là. Mais voilà. Mais à notre niveau, les gens, les Français, ils peuvent. Chacun peut faire un message de soutien, envoyer un message sur les médias. Bon, je pense que ça donne l'espoir et. Et l'espoir, c'est plus important aujourd'hui.
Et moi, j'ai une petite question. Alors, dis-moi si c'est compliqué d'y répondre comme ça, parce qu'on n'en a pas parlé avant. Mais comment les gens en Iran perçoivent les condamnations internationales? Parce que l'Iran est quand même un pays qui subit énormément de pression et de condamnations internationales. Et comment c'est perçu là-bas? J'imagine que le gouvernement joue de ça en disant que... la situation est compliquée en Iran, notamment à cause de ça, mais comment les gens le ressentent, ce truc-là?
Non, les Iraniens, ils ont répondu ça, parce qu'à l'époque, quand les États-Unis a libéré une partie de l'argent de l'Iran, ils ont tous utilisé en Syrie pour taper sur les Kurdes en Syrie. C'est, les Iraniens, un des slogans, ils disaient que, voilà, les sanctions, on s'en fiche, parce que... on sait que si vous arrêtez les sanctions, que ce gouvernement va être encore plus fort. Mais il faut savoir que l'Iran, c'est un pays riche. Malgré toutes ces sanctions-là, les gens y vivent. Donc non, l'arrêt de sanctions, c'est une mesure qui va aider de Pastarin à aller en Syrie, au Liban, ailleurs, faire leur propre guerre religieuse. Donc non, je pense que le peuple iranien, il survécu de tout ça. Donc non, je crois pas. Là, ça fait 3 semaines dans la région Kurdistan iranien et dans certaines d'autres villes, il y a une grève, c'est-à-dire tous les magasins, ils ont fermé. Donc les hôpitaux et pharmaciens, ils ont ouvert et ils ont envoyé déjà un message pour tous les médecins dans la région Kurdistan que vous ne devrez pas, et si vous soignez quelqu'un qui est blessé, donc on vous arrête aussi. Et ils ont mis la police devant toutes les pharmacies pour voir qui vient acheter un bandage. Non, je pense que sanctionner ce gouvernement, ça va aider de peuple iranien.
D'accord. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Pardon, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose?
Bah, moi, je vous remercie. Je veux dire que c'est la première fois que j'étais fier d'être iranien, parce qu'un peuple qui révolte, c'est un grand peuple. Et moi, j'adore ça. Et c'était la première fois que j'ai senti ce bien d'être iranien aussi.
Et à la radio, les gens ne peuvent pas voir, mais tu avais vraiment un grand sourire quand tu disais ça.
Merci.
Voilà, dernière chose, moi je voudrais annoncer, avant la fin du Canu Info, je voudrais annoncer la projection à la griffe.
Si Noir n'est pas là, autant faire un peu d'anarchisme quand même.
Voilà, voilà, tout à fait. Et ben du coup, à la griffe, le samedi 15 octobre à 15h, donc c'est facile à se rappeler, donc c'est ce samedi.
La librairie La Griffe, 9 rue Sébastien Griffe, dans le 7e arrondissement.
Voilà. Merci, voilà. la projection d'un film en présence de la réalisatrice sur Santé Caserio, qui était venue charitablement tuer le président français,
président Sadi Carnot. Et donc, comme on a le temps et qu'on peut faire un peu d'anarchisme, je vous lis sa déclaration au procès. Eh bien, si les gouvernements emploient contre nous les fusils, les chaînes, les prisons, est-ce que nous devons, nous, les anarchistes qui défendons notre vie, rester enfermés chez nous ? Non, au contraire, répondons au gouvernement avec la dynamite, la bombe, le stylet, le poignard. En un mot, et mince, j'ai la fin qui s'est bloquée.
C'était la classe, en un mot.
Nous devons faire notre possible pour détruire la bourgeoisie et les gouvernants. Vous qui êtes les représentants de la société bourgeoise, si vous voulez ma tête, prenez-la.
Très bien, parfait. Et du coup, ce qu'on peut rajouter, c'est que ce documentaire, parce que je pense qu'il y en a déjà eu des documentaires sur cette histoire, sera pour la première fois du point de vue de Santé Caserio et réalisé en partie de ses écrits. Puis on verra des images de Lyon. Donc je sais que si les gens nous écoutent et ils sont un peu chauvins, ils pourront voir. Ils pourront voir la place Carnot, la rue Édouard Herriot. À la télé.
Et ben on peut continuer ce petit agenda quand on en a quelques minutes. Et il y a un rassemblement unitaire pour la liberté de Georges Ibrahim Abdallah ce vendredi de 15h30 à 20h. Et c'est devant les 24 colonnes, le palais de justice, qui est Romain Rolland. Et c'est pas mal d'annoncer aussi la reprise, mais c'est pas le premier lundi qu'elles ont repris, des permes de la brigade des Fauchés, qui est une permanence d'entraide face aux problèmes qu'on peut rencontrer avec des institutions telles que la CAF, Pôle emploi et tout ce genre de trucs qui nous emmerdent. Peut-être qu'on peut arrêter des précisions.
Et qui a lieu les premiers et troisièmes lundis du mois, de 18 à 20h.
Et pour compléter, le mot de la fin, ce sera parce que mon invité vient de me prévenir que samedi à 15h à Place Bellecour, il y a un rassemblement en soutien à la révolution iranienne.
Donc samedi à 15h. Bon bah voilà, on a bien dépassé, hein, mais c'était cool.
On a fait comme l'émission d'avant.
À la semaine prochaine.
C'est donc ça l'effet que ça fait.
Merci
à la semaine prochaine.
Écouté.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des rêves.